Vous écoutez
RMC.
Jeudi 11 juin,
l'info sur RMC.
8h03 et Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Calmer la colère des policiers, Christophe Castaner reçoit aujourd'hui et demain les syndicats. Ils n'ont pas du tout apprécié son discours et les mesures annoncées après les accusations de violence et de racisme. Déconfiner pour mieux consommer, déconfiner pour travailler davantage. La nouvelle phase prévue en principe le 22 juin pourrait être avancée. Emmanuel Macron prendra la parole dimanche soir à 20h. Après l'Allemagne et le Portugal, la Liga est de retour ce soir, reprise du championnat de foot espagnol sans supporters. Bienvenue à tous sur RMC. Certains se sentent trahis, d'autres désavoués, lâchés par leur propre patron. Les policiers ont très mal vécu le discours et les annonces de Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur va-t-il trouver les mots pour calmer la colère dans les rangs des forces de l'ordre? En début de semaine, il prenait la tolérance zéro contre le racisme dans la police. Une technique d'interpellation a aussi été interdite. Yves Lefebvre, secrétaire général d'unité SGPFO, prévient le ministre. S'ils ne sont pas entendus, eh bien, son syndicat appellera à ne plus faire aucune interpellation.
Les policiers ont vraiment le sentiment d'avoir été lâchés par leur ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner a cédé à la vindicte d'une minorité populaire et aujourd'hui nous retire une technique d'intervention, une technique d'interpellation qui s'avère être complètement nécessaire aujourd'hui. On ne peut pas faire sans. Il veut, a priori, nous annoncer la généralisation du pistolet à impulsion électrique. On veut, nous, d'abord qu'il soit testé. Si jamais Christophe Castaner ne nous entend pas cet après-midi, ne nous écoute pas cet après-midi, bien évidemment, on va durcir le ton. J'appellerai ni plus ni moins à ne plus faire d'interpellation.
Une autre affaire survient dans ce contexte sensible. L'IGPN, la police des polices, va être saisie après l'arrestation fin mai dans le Val-de-Marne de 4 adolescents. Leurs familles ont porté plainte pour détention arbitraire, injures racistes et homophobes. La police dément. À quand la fin des mesures sanitaires strictes dans les restaurants, dans les entreprises, dans les magasins? Le MEDEF demande au gouvernement d'accélérer le mouvement. Acheter un vêtement, par exemple, est devenu une épreuve de patience. Un peu de place au plaisir et à la spontanéité. Désinfection des cabines, masque obligatoire pour le personnel, nombre de clients limités, bref, beaucoup de contraintes. Le protocole sanitaire en refroidit plus d'un. Garance Munoz et Florian Chevalet ont pu le constater dans un magasin de lingerie à Paris.
Madame, je vous laisse me suivre, la cabine a été désinfectée, ça sera juste ici.
Depuis un mois, pour Marianne, la vendeuse, avec les cabines d'essayage, c'est le même rituel.
Après, chez la cliente, on recommence, on doit désinfecter.
Et ce n'est pas la seule contrainte pour toutes les vendeuses. C'est port du masque obligatoire, c'est sans doute ce qui est le plus compliqué pour Isabelle Guillotot, responsable de la boutique.
Vous savez, c'est comme en mai 68, on jetait nos soutiens-gorge, là j'aimerais jeter mon masque.
Le mois dernier, ce magasin de lingerie a réalisé 35% de chiffre d'affaires en moins comparé à l'année dernière. Difficile de concilier vente, conseils et contraintes sanitaires.
Nous, on est très tactile, on a ce service de mesurer les clientes, d'être aux petits soins pour elles. Et aujourd'hui, on a cette barrière.
Les grandes enseignes de l'habillement demandent aujourd'hui un retour à un fonctionnement normal, de quoi limiter la casse, selon Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce.
Maintenant que l'épidémie est un peu moins présente, est-ce qu'on peut desserrer les taux? On va avoir des destructions de plusieurs milliers d'emplois et la fermeture avec de plusieurs centaines de points de vente. Ce qui signifie très concrètement des territoires où demain, il n'y aura plus de magasins et de la dévitalisation pour ces territoires-là.
Selon lui, dans le secteur de l'habillement, 15 000 salariés seraient aujourd'hui menacés.
L'INSEE dévoile ce matin des chiffres très inquiétants. Le premier trimestre 2020 a vu la destruction de plus de 500 000 emplois, principalement dans l'intérim, qui enregistre une chute vertigineuse de 40%. Au total, ce sont 800 000 emplois qui devraient être supprimés d'ici la fin de l'année. Projection dramatique faite hier par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Faut-il donc déconfiner plus vite que prévu? Emmanuel Macron pourrait faire des annonces en ce sens. Il prendra la parole dimanche soir à 20h. Jérémy Trottin, vous êtes le chef du service politique d'RMC. Jérémy, il s'agit d'un point d'étape, d'un nouvel exercice de pédagogie.
Oui, et il faut dire que les sujets sur lesquels le président devrait s'exprimer sont nombreux. L'actualité tout d'abord, et notamment la mort de George Floyd et les manifestations contre les violences policières en France, sujet sur lequel le chef de l'État est resté discret, mais surtout la nouvelle phase du déconfinement, très attendue par les Français et les entreprises. Une occasion pour redonner du sens et des perspectives à l'action du gouvernement, insiste l'Élysée. Le moment également d'expliquer aux Français qu'après la crise sanitaire s'ouvre désormais une crise économique. L'initiative franco-allemande pour relancer l'Europe sera également évoquée. Une prise de parole attendue par la majorité, très agitée actuellement dans la perspective d'un prochain remaniement. Mais les proches du président tentent de calmer le jeu. Cette intervention n'est qu'un point d'étape avant un discours très politique en juillet.
RMC 8h08. Faites-vous partie des riches? C'est la question à laquelle tente de répondre pour la première fois l'Observatoire des inégalités qui a fixé un seuil, 3 470 euros net par mois et par personne. En France, 8,2% de la population, environ 5 millions de Français, vivent justement au-dessus de ce seuil. Mais quand on interroge ceux qui se trouvent dans cette tranche, eh bien, ils ne se considèrent jamais comme riches. Mao Becker-Granier, Nicolas Repère.
Pour certains dans ce quartier du centre de Paris, on est riche à partir de...
10 000 euros, on commence à être un peu riche.
Retraité, Marc ne se considère pas comme riche alors qu'il touche une pension de plus de 5 000 euros par mois.
J'ai eu une classe moyenne, tout à fait moyenne. 3 500 euros, ça veut rien dire.
Pour l'Observatoire des inégalités, on est riche à partir de 3 470 euros net d'impôts mensuels. Une surprise pour Marie qui travaille pour une multinationale.
Je n'avais pas du tout ce montant en tête. Ça me paraît pas être un montant au-delà duquel on est riche. Moi, je gagne bien ma vie, j'ai pas de le dire. J'ai appris aujourd'hui que j'étais riche et je vous en remercie.
Jusqu'à maintenant, aucun critère n'existait pour définir la richesse. Un manque bien pratique pour les plus aisés, estime Louis Morin, le directeur de l'Observatoire des inégalités.
C'est aussi qu'on vit dans un certain milieu, on a certains codes, on a certains repères et on ne se rend plus compte. On est toujours le pauvre d'un autre, quoi. Et c'est très utile d'être le pauvre d'un autre, parce que quand vous voulez échapper à la solidarité, il n'y a rien de tel que se prétendre classe moyenne.
Louis Morin rappelle que la France compte 1 200 000 millionnaires, classant le pays parmi les 5 premiers dans le monde.
Millionnaire ou pas, n'oubliez pas que vous avez jusqu'à minuit ce soir pour déclarer vos revenus. Et puis bonne nouvelle, dès demain, vous pourrez dépenser non plus 19 euros, mais 38 en tickets restaurant. Le décret vient d'être publié. Direction les États-Unis. Après la mort de George Floyd, des symboles sont en train de tomber les uns après les autres, des statues de Christophe Colomb ont été décapités, vandalisés, déboulonnés dans plusieurs villes et notamment à Boston. Benoît Ballet.
La découverte a été faite dans la nuit de mardi à mercredi. Une statue de Christophe Colomb sans sa tête au centre d'un parc de la ville. Christophe Colomb, présenté comme le découvreur de l'Amérique, souvent considéré comme une des figures du génocide des Amérindiens et des indigènes en général, est dénoncé au même titre que les esclavagistes. Cette Américaine approuve la décapitation de la statue à son effigie.
Je comprends pourquoi c'est arrivé. Il faudrait qu'il l'enlève, tout simplement.
Une enquête est en cours. Le maire de la ville, Marty Walsh, a pris la parole hier avec un discours d'apaisement.
Cette statue en particulier a fait l'objet d'actes de vandalisme répétés et compte tenu des débats actuels dans notre société, nous allons prendre le temps de réévaluer sa signification historique.
Une autre statue de l'explorateur est tombée mardi soir à Richmond, en Virginie. Des manifestants l'ont traînée avec des cordes jusqu'à un lac voisin dans lequel elle a été jetée. Et des scènes similaires ont eu lieu à Miami ou encore à Saint-Paul dans le Minnesota, une ville mitoyenne de Minneapolis, là où George Floyd a trouvé la mort.
Les supporters de foot français vont sans doute envier leurs voisins espagnols ce soir. Reprise de la Liga avec une surveillance sanitaire extrême, Timothée Mémon.
Des hôtels entièrement réservés pour les équipes. 200 vols charter affrétés par la Ligue espagnole pour permettre aux clubs de se déplacer sans entrer en contact avec quiconque. Voici certaines des mesures mises en place en Espagne pour permettre la reprise du championnat. Comme en Allemagne, chaque footballeur convoqué pour un match sera testé et les joueurs entreront dans les stades masqués et gantés. Voilà à quoi ressemblera la Liga post-Covid. Une Liga qui reprend avec un derby, le plus chaud d'Espagne, probablement ce soir à 22h entre le Betis Séville et le FC Séville. Un derby sans supporters, évidemment. À la diffusion, les téléspectateurs pourront choisir entre l'ambiance glaciale d'un huis clos et celle dite de retransmission augmentée avec des bruits de supporters factices. Ce soir à 22h donc, la Liga reprendra, une Liga où l'enjeu sportif reste entier. Barcelone et le Real Madrid se tiennent en 2 points en tête et le suspense reste entier à tous les niveaux du classement à 11 journées de la fin.
Les supporters factices.
Ah, oui, on en est là. Des supporters factices. On en est là. Ces matchs de foot à huis clos, franchement, c'est pas... Heureusement, j'ai vu que... probablement, la finale de la Coupe de France aura lieu devant des spectateurs. Nous allons voir. C'est ce que propose Emmanuel Macron. Enfin, il y a eu un entretien
avec
entre Noël Le Graët et Emmanuel Macron hier. Apparemment, ça y est, il va y avoir des stades, des spectateurs dans les stades. On le souhaite.